Ce matin, on termine la série Selfie, la série sur le livre des juges. Ça va être le dernier message et on espère que vous avez été bénis à travers la série, que Dieu est venu brasser vos cœurs, vous parler de vous premièrement, vous parler de lui, vous parler de sa parole et de l'importance de marcher avec Dieu, d'être attentif aux directions que peuvent prendre nos cœurs. Et ce matin, on va aller dans un passage qui est percutant. Pour le moins percutant avec la fin du livre des juges. La semaine prochaine, on commence une nouvelle série, les 10 commandements, la loi parfaite de Christ. Alors, la semaine prochaine, les 10 commandements, et justement, on va aller dans cette loi, les 10 commandements dans l'Ancien Testament. Alors, vous pouvez prendre le temps d'aller lire ça cette semaine pour vous préparer. Je voulais aussi souligner là, la présence des Vincent, la présence des Colin. On bénit Dieu du fait que vous êtes ici avec nous ce matin. On a prié pour vous et on continue à prier pour vous. On continue à prier pour la petite Kéliane, la garder dans notre cœur. Alors que Dieu vous bénisse et que ce temps-là avec nous ce matin soit aussi un réconfort pour vos cœurs à vous ce matin. Mathieu va nous lire un passage des Écritures. Ce matin, on couvre les 4 derniers chapitres du livre des Juges. C'est vaste, on va pas les lire au complet, je vous rassure. C'est vaste parce que c'est vraiment une section qui va ensemble. On arrive dans une portion du livre des juges où il n'y a plus de juges. Et le narrateur veut raconter l'histoire d'Israël. Qu'est-ce qui arrive avec ce peuple-là qui a été délivré de l'esclavage en Égypte, qui a reçu la parole de Dieu, qui sait qu'est-ce que ça veut dire marcher avec Dieu, mais qui s'est complètement détourné de Dieu. Et donc, ce matin, dans les deux récits qu'on va voir, il va y avoir deux récits. Mathieu va nous lire le premier récit, on va couvrir ça. Ensuite, il va venir pour nous relire une partie du deuxième récit. À travers ces deux récits-là, ce que le narrateur est en train de faire, c'est qu'il passe du vol d'oiseau, puis il s'en va concrètement dans la vie de cette société-là. À quoi ressemble une société des individus qui ont entendu la loi de Dieu, mais qui se sont complètement détournés de Dieu? À quoi ça ressemble, ce monde-là, sur le plancher des vaches, d'accord? Et vous allez voir que c'est par moments troublant, par moments franchement écœurant, d'accord? On va dans un premier récit et dans le deuxième, je vous dis, cœur sensible, s'abstenir, c'est véritablement troublant. Alors, on va écouter ensemble la parole de Dieu dans Juges 17.
Premier passage dans Juges 17, verset 1 à verset 13. Il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm nommé Micha. Il dit à sa mère, « Les 1100 sicles d'argent qu'on t'a pris et pour lesquels tu as fait des imprécations même à mes oreilles, voici cet argent est entre mes mains. C'est moi qui l'avais pris. » Et sa mère dit, « Béni soit mon fils par l'Éternel. » Il rendit à sa mère les 1100 sicles d'argent et sa mère dit, « Je consacre de ma main cet argent à l'Éternel afin d'en faire pour mon fils une image taillée et une image en fonte. Et c'est ainsi que je te le rendrai. » Il rendit à sa mère l'argent, sa mère prit 200 sicles d'argent, et elle donna l'argent au fondeur, qui en fit une image taillée et une image en fonte. On les plaça dans la maison de Micha. Ce Micha avait une maison de Dieu. Il fit un éphod et des théraphim, et il consacra l'un de ses fils qui lui servit de prêtre. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il y avait un jeune homme de Bethléem de Juda, de la famille de Juda. Il était lévite et il séjournait là. Cet homme partit de la ville de Bethléem de Juda pour chercher une demeure qui lui convint. En poursuivant son chemin, il arriva dans la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Micha. Micha lui dit, « D'où viens-tu? » Il lui répondit, « Je suis lévite de Bethléem de Juda et je voyage pour chercher une demeure qui me convienne. » Micha lui dit, « Reste avec moi, tu me serviras de père et de prêtre. » Et je te donnerai 10 sicles d'argent par année, les vêtements dont tu auras besoin et ton entretien. » Et le Lévite entra. Il se décida ainsi à rester avec cet homme qui regarda le jeune homme comme l'un de ses fils. Micha consacra le Lévite et ce jeune homme lui servit de prêtre et demeura dans sa maison. Et Micha dit, « Maintenant, je sais que l'Éternel me fera du bien puisque j'ai ce Lévite pour prêtre. »
Père éternel, on veut te demander de venir appliquer ta parole à nos cœurs, de venir nous instruire. Seigneur, nous ne voulons pas marcher sans roi et sans loi. Et tu nous as fait connaître Jésus-Christ, notre roi. Rends-nous attentifs, Seigneur, au message de ta parole et qu'elle vienne s'appliquer à chacune de nos vies personnellement. C'est en Jésus-Christ que je te le demande. Amen. Amen. Rappelez-vous ce que l'envoyé de l'Éternel avait dit au début du livre des Juges. Vous pouvez tourner avec moi très rapidement dans Juges 2. Au tout début du livre des Juges, Dieu a donné cette terre à Israël et il a dit à Israël, « Vous n'allez pas tolérer au milieu de vous d'autres peuples qui vont être là avec des cultes à d'autres idoles. Donc, vous allez chasser tous ces peuples-là, vous allez prendre possession du territoire, vous allez habiter là et devant toute la terre, vous allez être une illustration de ce que c'est que de vivre selon la loi de Dieu. » Mais Israël, dès le début de la conquête, a toléré des peuples, a commencé à traiter des alliances, a vu toutes sortes d'intérêts là-dedans parce qu'ils pouvaient aller tirer des tribus en les gardant là, en les dominant. Et finalement, ils ont commencé à adopter des pratiques des peuples conquérants, d'accord? Et au chapitre 2, Dieu envoie un messager, un ange vers le peuple d'Israël. Et voici ce qu'on lit en Juges 2, verset 1. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit, « Je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous, vous ne traiterez point d'alliance avec les habitants de ce pays, vous renverserez leurs autels. Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés et leurs dieux vous seront un piège. Et il aurait pu ajouter, et vous deviendrez comme eux. Et donc, lorsqu'on arrive à la fin du livre des Juges, ce que le narrateur veut démontrer en allant rencontrer le peuple d'Israël, non pas comme j'ai dit à vol d'oiseau, mais concrètement dans la vie d'individu, aller dans des villes israéliennes pour voir quel était le style de vie, comment est-ce que ces gens-là vivaient, comment est-ce qu'ils agissaient les uns envers les autres. Lorsqu'on arrive à la fin du livre des Juges, le narrateur veut nous démontrer que le peuple d'Israël est rendu absolument identique aux nations qu'ils ont laissées vivre au milieu d'eux. Ils ont adopté leurs coutumes, leurs habitudes, leur style de vie. Ils traitent les gens de la même manière que les peuples environnants le faisaient. À cette époque-là, les peuples qui vivaient là n'avaient aucun respect pour la femme, n'avaient aucun respect pour Dieu, avaient des styles de vie qui incluaient toutes sortes de débauches, aucune vision de l'aspect sacré de l'union entre un homme et une femme, et se servaient de tous les moyens possibles pour abuser des gens autour d'eux. Dans leur culte, dans leur rite, certains d'entre eux faisaient des sacrifices humains, littéralement, d'accord? Et donc, lorsqu'Israël a décidé de commencer à traiter alliance avec ces gens-là, ils se sont engagés dans une série de cycles où Dieu va les livrer à eux-mêmes. Et donc, à travers la série, on a vu ce cycle, d'accord? Rappelez-vous du cycle où Dieu les conduit dans la terre promise, Dieu les libère, Dieu les délivre, et ils décident de traiter alliance avec les dieux environnants, avec les peuples environnants, commencent à devenir idolâtres, et Dieu va les livrer à eux-mêmes. En les livrant à eux-mêmes, c'est pas un peuple de conquérants. Ils n'arrivent pas à dominer les peuples environnants, les peuples qu'ils ont tolérés au milieu d'eux. Et donc, ils sont assujettis à nouveau, vont crier à l'Éternel. Dieu, dans sa grâce, va susciter des juges, des héros qui vont venir, premièrement, pour les libérer, deuxièmement, pour juger parmi le peuple et conduire le peuple dans les voies de Dieu de son vivant. Et ce cycle-là va se répéter à plusieurs reprises à travers le livre des Juges. Et lorsqu'on arrive à Samson, qu'on a vu la semaine dernière, on trouve le dernier juge. Et comme j'ai mentionné la semaine dernière, bien, c'est pas un cycle où on revient à la case départ à chaque fois, d'accord? C'est davantage une spirale descendante à laquelle on assiste. Et on a vu assez en détail la semaine dernière de quelle manière Samson est vraiment pas un juge terrible pour Israël, d'accord? C'est un homme qui lui-même est très charnel, se sert des dons que Dieu lui a donnés, dans le fond, pour assouvir ses propres passions. Et ce n'est qu'à la fin de sa vie qu'il va s'offrir finalement un sacrifice, mais même là, dans ses motifs, c'est douteux. Il cherche une certaine vengeance personnelle à travers ça. Et puis on arrive avec la mort de Samson. Dieu avait annoncé à travers un ange à la mère de Samson à sa naissance, Dieu avait annoncé que Samson allait commencé de délivrer Israël, mais Samson, de son vivant et à travers sa mort, a vraiment seulement commencé de délivrer Israël. Et lorsqu'on arrive après Samson, le narrateur veut nous montrer où est rendue cette nation-là. Et là, on rentre dans des vies très, très concrètes. Ce matin, on va voir deux récits ensemble. D'accord? Vous allez voir, vous allez avoir l'impression que je prêche deux messages. Ça va rouler quand même passablement rapidement. Mais c'est volontaire si je fais ça. Parce qu'on a, deux illustrations d'un peuple qui marche sans Dieu. Parfois, cette attitude-là de rejet de Dieu peut prendre une forme assez banale, on peut avoir l'impression, et d'autres fois, ça va tourner en histoire d'horreur. Rappelez-vous cette phrase qui revient à de nombreuses reprises à travers le livre des Juges. « L'Éternel fit ce qui déplaît à l'Éternel. » Israël fit ce qui déplaît à l'Éternel. Ça serait intéressant comme concept, ça. On va regarder ça pour un autre sermon. Israël fit ce qui déplaît à l'Éternel. Personnellement, quand je lis ça en français, je trouve ça doux comme expression. On peut avoir l'impression, tu sais, que Dieu est un peu capricieux, puis il est pas content parce que Israël a fait ce qui lui déplaisait. Ça arrive que mon épouse fait des choses qui me déplaisent, tu sais. Mais ça veut pas dire que j'étais très, très sain dans mes désirs. Et donc, on peut avoir l'impression d'un Dieu un peu capricieux, dominateur, qui veut que son peuple marche comme ça parce qu'il faut que ce soit comme ça qu'il marche. C'est pas le cas. Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu est bon. Et ce qui déplaît à Dieu est profondément mal. C'est pas juste que c'est mal à ses yeux, c'est que c'est profondément destructeur. Et donc, lorsqu'on décide de faire ce qui déplaît à l'Éternel, on s'engage dans un processus d'autodestruction. Et c'est ça qu'il nous faut saisir. Et c'est ce que le narrateur veut montrer ici à travers ça. Lorsqu'on voit ces peuples qui vont traiter des alliances puis vont adopter des idoles, on se dit, bon, OK, c'est quoi? Là, Dieu est un peu jaloux parce qu'ils vont avoir d'autres idoles dans leur vie puis tout ça, qu'est-ce qu'il y en a? Et la raison pour laquelle on raisonne comme ça, c'est la suivante. Chacun d'entre nous, lorsque nous tolérons dans notre vie d'autres dieux, des désirs, des passions, des pulsions qui viennent dominer notre pensée et qui ne sont pas selon Dieu. L'apôtre Paul nous dit que toutes ces choses-là sont des idoles pour nous. Elles ne sont pas physiques, mais elles sont là dans nos cœurs. Et voyez-vous, nous croyons tous profondément dans nos cœurs. Lorsqu'on laisse ces idoles entrer dans nos vies, qu'on est capable de les contrôler. Chacun d'entre nous, on est convaincu qu'on est capable de contrôler ça, ces petites bêtes-là. Et on se dit, mais quand même, c'est pas comme si j'abandonnais Dieu. Là, regardez, je suis à l'église un matin. C'est pas comme si j'abandonnais la foi. Alors, lorsqu'on lit dans le récit, on voit Israël qui va traiter des alliances, on dit, mais... pourquoi Dieu s'énerve comme ça? Je comprends qu'il veut juste leur cœur, tout ça, mais qu'est-ce que ça a vraiment comme incidence quand je tolère une idole dans ma vie? Je peux la contrôler, c'est juste un endroit de repos pour moi, c'est juste un petit aparté, c'est juste une petite pause, je vais y arriver. C'est faux. Il n'y a pas un être humain qui arrive à dominer les idoles qu'il y a dans son cœur. Et ce que le narrateur va nous démontrer, c'est que ce peuple-là a abandonné Dieu pour aller vers d'autres idoles. Et lorsqu'on arrive à la fin de l'histoire, il veut nous démontrer que ce peuple-là a besoin d'un roi qui va venir régner sur eux, mettre de l'ordre dans ce désordre profond qu'il y a en Israël et les conduire dans les voies de Dieu. Et ça va s'imposer au fur et à mesure qu'on avance dans ce récit-là. Alors, le premier récit, deux récits. Premier récit semble un petit peu banal. Deuxième récit, franchement écœurant et difficile. Allons-y avec le premier récit. Qu'est-ce qui se passe ici? On a un homme qui est Mika, qui est pas franchement, c'est très méchant. OK? C'est un gars qui est ni vraiment mauvais, ni vraiment bon. En bon québécois, on dirait, c'est un bon yab, tu sais, je pense que tout est dit, un bon yab, tu sais. Essayez de mettre ça ensemble, c'est un bon yab. C'est quelqu'un qui est pragmatique. C'est quelqu'un qui est pratique puis qui se dit, écoute, quand même, tu sais, si je pourrais être croyant, il faut que ça serve à quelque chose, cette affaire-là. Fait que, il a fait des mauvais coups dans sa jeunesse, il a pas toujours été droit, Dans son cas, il avait volé de l'argent à sa mère, tu sais. Mais qui fait pas des erreurs dans sa jeunesse? Il a entendu dire que sa mère avait prononcé des malédictions, qu'elle a dit « Maudit soit celui qui m'a volé cet argent! » C'est un gars pratique qui se dit « Ouais, ça part pas bien ma vie. Peut-être si je rapportais son argent, tu sais, c'est quand même ma mère, tu sais. » Fait qu'il a rapporté son argent, puis il a dit « Écoute, je suis vraiment désolé. » Maintenant, tu sais, la pomme tombe jamais tellement loin de l'arbre. Ben c'est ça. Sa mère est une femme comme ça aussi. Fait que lorsqu'elle voit arriver, elle dit « Oh, mon fils, que l'Éternel te bénisse. » Il vient d'y voler de l'argent, tu sais. Il me semble qu'il y a d'autres choses à dire aussi, mais oh, que l'Éternel te bénisse. Et pour remercier Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec tout cet argent-là? Je vais la consacrer à l'Éternel. Maintenant, des gens pratico-pratiques, tu sais. Pas des gens comme qui passent leur vie à tuer du monde, puis à dealer de la drogue, puis à détruire la société. Juste des gens un petit peu pragmatiques. Fait qu'elle dit, je vais confier ça à l'Éternel. Et bon, finalement, elle confie pas tout à l'Éternel. 100 sicles, elle décide d'en garder 900, les met dans ses poches. Elle prend 200 sicles, elle le consacre à l'Éternel. Maintenant, joignons l'utile à l'agréable, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'elle décide de faire? Elle dit, tiens, mon fils, voici ce que je vais faire avec ça. Je vais faire comme Aaron a fait dans le passé. On va couler ça, on va en faire une statue, puis tu vas avoir une maison de l'Éternel dans ta maison. Ce qui est commode quand même à l'époque de dire, voici, chez moi, il y a une maison de l'Éternel. Et donc, il y a une maison de Dieu chez moi. Ça plaît à Mika. Mika, il disait toujours une bonne affaire, tu sais. Je veux dire, si Dieu est bon, si j'ai une maison de Dieu chez nous, je pense qu'il va être encore plus de mon bord. Pas mauvais pour l'image non plus. À l'époque, on adorait dans la ville de Silo, le tabernacle qui avait été construit, qui était, selon la loi de Dieu, le seul endroit où le peuple officiellement allait adorer Dieu était dans la ville de Silo. C'est pas mal loin. Ça amène beaucoup de notoriété à la ville de Silo. Pourquoi j'aurais pas ma maison de Dieu à moi? Alors, qu'est-ce que Mika est en train de faire? Tranquillement, Mika est en train de redéfinir Dieu un petit peu. C'est ça qu'il est en train de faire. Puis là, il se dit, bon, j'ai une maison de Dieu, ça me prendrait un prêtre aussi. Prends un de ses fils, puis il dit, regarde, tu vas être mon prêtre. Ça me prend un prêtre, tu vas être mon prêtre. C'est excellent tout ça, c'est très pratique, tu vois. Fait que Mika, c'est pas quelqu'un qui dit « je rejette l'Éternel ». Mika, c'est quelqu'un qui dit « ben tant qu'il est croyant, il faudrait que ça serve à quelque chose, tu sais. Il faudrait que ça rapporte un peu. » Fait que, comme je vous dis, c'est un gars pragmatique. Donc, à un certain moment donné, il y a une opportunité qui se présente à Mika. Ça s'adonne qu'il y a un Lévite qui passe par là. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, en principe, tous les prêtres de l'Éternel devaient être des descendants d'Aaron de la tribu de Lévi. Il y a un Lévite itinérant qui passe par là. Mika a rien contre la vertu. Il se dit, je pourrais upgrader ma patente. Je pourrais comme avoir le real brand. Il avait pris son fils comme prêtre, mais là, il y a un Lévite. Fait qu'il dit, écoute, là, ça pourrait être comme the real thing. Là, parce qu'il y avait des gens peut-être qui venaient le voir puis ils disaient, OK, t'as la maison de Dieu, mais je veux dire, c'est les Lévites qui sont censés être des prêtres. Ben, ça s'adonne qu'il y en a un. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à jaser avec lui. Tombe sur un Lévite, puis il fait une offre. Puis Lévite, qui était un prêtre itinérant, ou de la tribu de Lévi itinérant, puis on ne sait pas pourquoi on n'a pas son histoire, mais il voit l'opportunité intéressante lui aussi. Et donc, voyez-vous, Mika n'est pas un mauvais homme. C'est pas quelqu'un qui dit « je veux rien savoir de Dieu, j'en ai rien tiré à Dieu ». C'est quelqu'un qui se dit « la religion, la foi, c'est quelque chose qui doit quand même te rapporter un peu ». Fait que quand tu vas vers la loi de Dieu, tu t'en prends puis t'en laisses quand même. T'en prends puis t'en laisses. Puis c'est quelqu'un qui était prêt. Si je peux être un peu plus près de la vraie affaire, puis qu'en même temps que ça va me rapporter, moi, j'ai rien contre ça, la vertu. Fait que si je peux en avoir un vrai, un brandé, un vrai prêtre qui vient de la tribu de Lévi, why not, tu sais? Et peut-être que c'est comme ça que tu vis ta foi. Tu vis ta foi comme ça. Dieu, c'est bien, tu sais? Je veux dire, si Dieu existe, qu'il veut pas l'avoir dans sa gang. Toujours pratique d'avoir des bons financiers, toujours pratique d'avoir quelqu'un qui peut déplacer des montagnes pour toi, tu sais. Puis si t'es né dans une famille chrétienne, pourquoi brasser un paquet d'affaires en remettant tout ça en question? Je vais à l'église le dimanche, check. Tout le monde est cool, les gens sont contents, les parents sont contents, personne m'achale. Ma femme est chrétienne, j'ai juste, c'est comme, juste suivre le flow, tu sais. Mais en même temps, profondément dans ton cœur, t'es un peu comme Mika. T'es quelqu'un qui en prend puis qui en laisse. T'es quelqu'un qui prend ce qui fait son affaire, qui met de côté ce qui va pas, parce que tu te dis, regarde quand même, faut pas capoter avec ça, Dieu, là. Quand même, on va pas virer fou avec cette affaire-là. On prend ce qui est bon, puis on met de côté ce qui est moins bon. Mais ta vie est rangée. Je veux dire, si on te comparait à la société en général, tu es quand même quelqu'un de bien. Tu n'es pas un mauvais homme. Tu n'es pas un mauvais homme. Quelqu'un de bien. Ce que Mika ne réalisait pas en faisant tout ça, ce qu'il ne réalisait pas, c'est qu'à partir du moment où Mika a décidé de ne pas adorer Dieu et servir Dieu tel que Dieu s'est révélé dans sa parole, selon sa loi, il a commencé à s'éloigner de Dieu. Il a commencé à redéfinir Dieu. Dieu est invisible. Pourquoi on ne le rendrait pas visible? Ça serait plus concret. Moi, je veux bien faire des prières, mais c'est plus real pour moi quand je suis devant, tu sais, comme une espèce d'objet. C'est pas lui, mais ça le représente, tu sais, puis bon. Ce que Mika ne réalisait pas à travers ça, c'est que progressivement, il s'est éloigné de Dieu. Et à la fin de l'histoire de Mika, Mika n'est pas en relation avec Dieu du tout. Il est en relation avec le Dieu qu'il a imaginé. Il n'est pas en relation avec Dieu. C'est vrai dans nos relations humaines. C'est vrai dans nos rapports humains. Je veux dire, si je disais à mon épouse, écoute Esther, je sais bien que tu me dis que tu es comme ça, mais c'est pas vraiment comme ça que je t'avais imaginé, tu sais. Fait que moi, je te vois autrement. C'est-à-dire, à un moment donné, elle va me dire, ben, écoute, reste avec celle que tu imagines, là. Mais c'est pas elle que je suis. C'est ça qui s'est passé avec Mika. Éventuellement, il n'était plus en relation avec le vrai Dieu. Parce qu'il n'avait pas cherché à le connaître tel qu'il est, tel qu'il se révèle à nous. Dieu est invisible, c'est vrai. Dieu est invisible et c'est tentant dans notre époque, dans notre culture, de dire des choses comme, ben moi, c'est pas comme ça que je le vois à Dieu. D'abord, si tu le vois, dis-moi-le, moi, je l'ai jamais vu. Fait que si vraiment que tu peux te permettre de dire que c'est pas ça comme ça que tu le vois, je veux que tu me le présentes. Moi, personnellement, je l'ai jamais vu. Ah, oh, mais justement, il est invisible. Comment je peux savoir comment est-ce qu'il est? Je veux dire, je regarde en moi, puis en moi-même, je vois ça. Fait que je me dis, Dieu doit être comme ça. Mais tu ferais jamais ça dans une relation avec un être humain. Dans une relation avec l'amour de ta vie, avec tes amis, avec les gens. Tu as une relation vraie lorsque tu écoutes ce que l'autre a à te faire connaître sur lui. Non? Lorsque tu es à l'écoute. Or, Dieu a parlé. Dieu avait déjà parlé à l'époque de Mika. Dieu avait parlé abondamment déjà. Et on pouvait lire qui est Dieu à travers ce qu'il nous révélait sur lui. Mais Mika avait décidé de se détourner de la révélation de Dieu sur la personne de Dieu et de redéfinir Dieu comme il l'entendait. Et peut-être que c'est comme ça que tu vis la foi. Et notre société, notre culture fait ça facilement. Notre culture va dire, ben sur les questions morales, ça dépend. Peut-être que oui, peut-être que non. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Et donc, parfois même chez des chrétiens, on va avoir une approche qui va être subjective. On va avoir une approche où on subjectivise le bien et le mal. Oui, je sais ce que la Bible dit, mais je veux dire, on n'est pas mariés, puis nous autres, on a des relations sexuelles ensemble. Tu sais, on a prié là-dessus, honnêtement, puis on est en paix avec ça. On est en paix avec ça. Donc, Mika ne réalise pas qu'à force de redéfinir Dieu selon ses propres termes, comme lui veut l'imaginer, au bout de l'histoire, il n'est plus en train de marcher avec Dieu. Il est loin, loin, loin de Dieu. Et la deuxième chose qu'il ne réalise pas, c'est qu'on ne peut pas mettre Dieu dans une boîte. On ne peut pas définir Dieu comme on veut puis le mettre dans un petit cadre et dire « voici qui tu es, Dieu ». Dieu, c'est le Tout-Puissant. À partir du moment où il a dit « je vais en faire une image qui va le représenter », il a essayé de le mettre dans une boîte. Et dès qu'il a fait ça, il s'est engagé sur une voie où il ne connaissait plus Dieu, il ne comprenait plus Dieu. On ne met pas Dieu dans une boîte. Alors, la suite de l'histoire de Mika, bien, écoute, Mika est entouré de gens qui pensent comme lui, sa mère est comme lui, le prêtre qui est embauché comme lui, tous les gens sont comme lui. Fait qu'à un certain moment donné, ben, il va y avoir une tribu qui va venir, la tribu de Dan, qui eux autres aussi veulent se positionner puis se dire, Dieu, c'est quand même une bonne affaire, ça serait bon d'avoir ce brand-là. Il y a des gens qui entendent parler de la statue de Mika, qui entendent parler qu'il y a un prêtre qui est là-bas, s'en vont voir le prêtre et lui disent, écoute, je comprends, ta condition est pas pire, t'es en train de servir une famille. Si on te faisait une offre, si on te disait, ouais, mais tu pourrais servir une tribu complète, man, tu serais le prêtre pas d'une famille, d'une tribu complète, mon vieux. Écoute, ça c'est du pouvoir. Le prêtre est comme Micah. Il est pareil, c'est la société qui est comme ça. Le prêtre voit là-dedans une belle opportunité, une promotion. Écoute, je suis sûr qu'il pouvait payer plus cher quand même. Part avec la statue, avec les téraphimes, avec l'éphod que Micah s'était fait. Micah part après eux en braillant. Il dit, mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Puis lorsqu'on est rendu là, on voit très bien que Micah, complètement perdu de vue l'Éternel, il dit, vous m'avez volé mes dieux. Parce que progressivement, c'est plus l'Éternel qui est en train d'adorer là. Il est en train d'adorer des dieux qu'il s'est forgés. Et il dit, vous m'avez volé mes dieux, vous m'avez volé mon prêtre. Qu'est-ce qu'il me reste? Si c'est toi qui définis Dieu, si c'est toi qui définis toi-même ton Dieu tel que tu veux le concevoir et l'imaginer, comme Micah, il va te laisser tomber, je te le garantis. Il n'est pas plus puissant que ton imagination. Et Micah arrive là, puis il pleure, mais il dit, mais qu'est-ce qu'il me reste? Écoute, si ton Dieu, on peut le voler comme ça, si on peut acheter ton prêtre avec de l'argent, sauve-toi en courant de cette place-là, ça n'a pas de bon sens. Mais si ton Dieu, c'est celui qui s'est fait connaître à travers la parole de Dieu, si ton roi, c'est Jésus-Christ, personne ne peut te le voler. Personne ne pourra jamais, jamais arracher de ton cœur, de ton vie, de ta vie, Jésus-Christ. L'histoire de Micah, c'est l'histoire d'un gars qui n'est pas un mauvais yard, un bon yard, qui n'est pas très, très violent, qui n'est pas très troublant. C'est une histoire de péché assez banale, somme toute, en apparence. Mais voyez-vous, à force de faire des compromis sur sa compréhension de Dieu, la foi de Micah devient de plus en plus banale. Il croyait qu'il pouvait dominer tout ça, puis contrôler tout ça. Et c'est le mensonge que nous avons tous tendance à croire lorsque nous tolérons des idoles dans nos vies, dans nos cœurs, des choses qui viennent de nos pulsions, de nos passions, plutôt que de la parole de Dieu, qui tranquillement vont dominer nos cœurs. Et ça va nous amener à faire des compromis. Dieu s'est fait connaître à travers sa parole. Ça va nous amener à faire des compromis, en prendre puis en laisser, parce qu'il y a une idole qui commence à régner sur mon cœur. Et de compromis en compromis en compromis, cet ensemble-là de compromis va faire de ta foi une foi totalement banale. Ah, tes péchés, c'est peut-être des péchés qui ont de l'air banals. Peut-être que t'es pas quelqu'un qui fait des grands scandales, mais ta foi est rendue banale aussi. Alors que lorsque je lis la Bible, lorsque je découvre Jésus-Christ, le christianisme n'a rien de banal. Le christianisme est excitant, c'est exaltant, ça te pousse à te dépasser toi-même, à te donner, à aimer ton prochain, à te sacrifier pour les autres, à être là, à devenir quelqu'un d'absolument incroyable parce que tu veux être comme Jésus-Christ. Le christianisme n'a rien de banal. Mais si à quelque part dans ta vie, tu as toléré certaines idoles, tu as commencé à faire des compromis. Ces compromis-là, progressivement, un par un plus un, plus un, plus un, rendent ta foi banale. Et honnêtement, quand tu ouvres la bouche puis tu parles de ta foi, quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ n'a absolument rien à envier. C'est l'histoire de Micah. C'est l'histoire d'une société qui a rejeté Dieu. Une histoire banale. Et souvent, le péché a de l'air de ça. Pour la majorité d'entre nous, le péché dans nos vies va avoir de l'air assez banal. Des fois, ça tourne à l'horreur. Des fois, ça devient franchement écœurant. Je ne sais pas si vous avez lu les journaux un petit peu cette semaine. Il était souligné le massacre du Rwanda. Et là, on n'est pas dans la banalité du tout, là. Ça devient gory carrément. Et dans la prochaine histoire, je vous demande d'avoir ça à l'esprit, ce que le narrateur est en train de faire. Il nous donne deux récits, deux histoires. Une qui a de l'air rangée et contrôlée, et une où le peuple de Dieu perd le contrôle complètement. Et ça tourne à l'horreur totale. Je vous le dis, si vous avez les cœurs sensibles, vous allez peut-être avoir le goût de vomir. D'accord? Mais vous devez comprendre, Pourquoi est-ce que Dieu rapporte ça dans les Écritures? C'est parce que Dieu n'est pas là pour nous dorer la pilule. Nous, on veut se faire accroire que de tolérer des idoles dans nos cœurs, ça se contrôle, cette affaire-là. Bien des fois, tu vas sauver la face, tu vas sauver l'image. D'autres fois, ça dérape totalement et ça tourne à la monstruosité. Et c'est ça qui se passe ici, dans cette histoire-là. On va écouter la parole de Dieu.
Donc, la deuxième partie se trouve dans Juges 19, versets 1 à 4. Et puis, on va poursuivre avec les versets 10 à 30 par la suite. Dans ce temps où il n'y avait point de roi en Israël, un Lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm prit pour sa concubine une femme de Bethléem de Juda. Sa concubine lui fit infidélité et elle le quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Juda, où elle resta l'espace de 4 mois. Son mari se leva et alla vers elle pour parler à son cœur et la ramener. Il avait avec lui son serviteur et 2 ânes. Elle le fit entrer dans la maison de son père, et quand le père de la jeune femme le vit, il le reçut avec joie. Son beau-père, le père de la jeune femme, le retint 3 jours chez lui. Ils mangèrent et burent, et ils y passèrent la nuit. Verset 10. Il se leva et partit. Il arriva jusque devant Jébu, qui est Jérusalem, avec les 2 ânes bâtés et avec sa concubine. Lorsqu'ils furent près de Jébu, le jour avait beaucoup baissé. Le serviteur dit alors à son maître, « Allons, dirigeons-nous vers cette ville des Jébusiens et nous y passerons la nuit. » Son maître lui répondit, « Nous n'entrerons pas dans une ville d'étrangers où il n'y a point d'enfants d'Israël, nous irons jusqu'à Gibéa. » Il dit encore à son serviteur, « Allons, approchons-nous de l'un de ces lieux, Gibéa ou Rama, et nous y passerons la nuit. » Ils continuèrent à marcher et le soleil se coucha quand ils furent près de Gibéa, qui appartient à Benjamin. Ils se dirigèrent de ce côté pour aller passer la nuit à Gibéa. Le Lévite entra et il s'arrêta sur la place de la ville. Il n'y eut personne qui l'ait reçu dans sa maison pour qu'ils y passassent la nuit. Et voici, un vieillard revenait le soir de travailler au champ. Cet homme était de la montagne d'Éphraïm. Il séjournait à Gibéa et les gens du lieu étaient benjamites. Il leva les yeux et vit le voyageur sur la place de la ville et le vieillard lui dit, « Où vas-tu et d'où viens-tu? » Il lui répondit, « Nous allons de Bethléem de Juda jusqu'à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm d'où je suis. J'étais allé à Bethléem de Juda et je me rends à la maison de l'Éternel. Mais il n'y a personne qui me reçoive dans sa demeure. Nous avons cependant de la paille et du fourrage pour nos ânes. Nous avons aussi du pain et du vin pour moi, pour ta servante et pour le garçon qui est avec tes serviteurs. Il ne nous manque rien. » Le vieillard dit, « Que la paix soit avec toi. Je me charge de tous tes besoins et tu ne passeras pas la nuit sur la place. » Il les fit entrer dans sa maison et il donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds, puis ils mangèrent et burent. Pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici les hommes de la ville, gens pervers, entourèrent la maison, frappèrent à la porte et dirent au vieillard, maître de la maison, « Fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous le connaissions. » Le maître de la maison, se présentant à eux, leur dit, « Non, mes frères, ne faites pas le mal, je vous prie, puisque cet homme est entré dans ma maison, ne commettez pas cette infamie. Voici, j'ai une fille vierge et cet homme a une concubine. Je vous les amènerai dehors, vous les déshonorerez et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Mais ne commettez pas sur cet homme une action aussi infâme. » Ces gens ne voulurent point l'écouter, alors l'homme prit sa concubine et la leur amena dehors. Ils la connurent et l'abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin, puis ils la renvoyèrent au lever de l'aurore. Vers le matin, cette femme alla tomber à l'entrée de la maison de l'homme chez qui était son mari et elle resta là jusqu'au jour. Et le matin, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison et sortit pour continuer son chemin. Mais voici, la femme, sa concubine, était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. Il lui dit, « Lève-toi et allons-nous-en. » Elle ne répondit pas. Alors le mari la mit sur un âne et partit pour aller dans sa demeure. Arrivé chez lui, il prit un couteau, saisit sa concubine et la coupa membre par membre en 12 morceaux, qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. Tous ceux qui virent cela dirent, « Jamais rien de pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis que les enfants d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. »
Parfois, on a l'impression de sauver la face, puis le péché a des allures banales. Parfois, le péché prend des tournures absolument écœurantes et dégueulasses. Jamais la Bible est là pour cacher le péché. La Bible n'est pas là pour vous dorer la pilule puis vous dire que vous êtes fondamentalement bon. La parole de Dieu est là pour vous dire que vous êtes pécheurs, que votre cœur est tortueux. Et celui qui croit, qui ne serait jamais capable de faire des choses comme ça, n'a pas beaucoup lu sur l'histoire de l'humanité. Parce que ces histoires d'horreur-là se passent à chaque année, chaque mois, chaque semaine actuellement sur la terre. L'horreur dans cette histoire-là, c'est que ça se passe en Israël. Ça se passe en Israël. Et ce que l'auteur veut nous dire, c'est que le cœur humain, l'être humain, n'a pas seulement besoin d'être délivré par Dieu, n'a pas simplement besoin de connaître la loi de Dieu. Le cœur humain a besoin d'un roi qui règne sur son cœur et le conduit dans les voies de Dieu. Chapitre 19, verset 1, commence comme ceci. « Dans ce temps où il n'y avait point de roi en Israël. » Et c'est ça que le narrateur veut nous aider à saisir, il veut nous aider à comprendre l'incidence sur cette société qui décide de s'éloigner de Dieu et qu'il n'y a personne qui va le conduire dans les voies de Dieu. Encore aujourd'hui, cette histoire-là est une honte nationale pour Israël. C'est pas un mythe, cette affaire-là. Cette femme-là a vécu. Ces gens-là ont vécu. Les prophètes, dans les siècles qui ont suivi, faisaient référence à cela pour parler de cette horreur. Dans le prophète Osée, on lit au chapitre 9, versets 8 et 9. « Ils sont plongés dans la corruption comme au jour de Gibéa. L'Éternel se souviendra de leur iniquité, il punira leurs péchés. » Il fait référence à cette ville de Gibéa. Dans Osée 10, versets 8 à 10, on lit « Depuis les jours de Gibéa, tu as péché Israël. » Là, ils restèrent debout. La guerre contre les méchants ne les atteignit pas à Gibéa. Je les châtirai à mon gré et des peuples s'assembleront contre eux quand on les enchaînera pour leur double iniquité. Et donc, lorsqu'on arrive au chapitre 17, 18, 19, 20, 21, le narrateur est en train de mettre la table pour faire la démonstration qu'Israël va avoir besoin d'un roi qui vienne les conduire dans les voies de Dieu. C'est ça qu'il est en train de faire. Alors, l'histoire commence rapidement avec un autre lévite, un autre prêtre. Et ce prêtre-là, tout de suite, le ton est donné. Au début, il avait une concubine. Maintenant, il faut comprendre, c'est quoi une concubine à l'époque? C'était une épouse de second rang, d'accord? Les prêtres avaient le droit de se marier, avaient le droit d'avoir des enfants. C'était pas une question pour eux. Mais une concubine, c'était une épouse de second rang, qui était même parfois une esclave, qui était là essentiellement pour assouvir les désirs de monsieur. En gros, c'était ça, d'accord? Et donc, le ton est donné dès le début. La parole de Dieu avait été super claire. Dans Genèse 2, 24, Dieu nous avait dit, « Voici ce que je veux pour le mariage. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Ça, c'est la vision de Dieu pour l'union entre un homme et une femme. C'est comme ça que ça doit se produire. Très tôt dans l'histoire d'Israël, les hommes ont commencé à adopter la culture environnante, à prendre plusieurs épouses. Nombre de rois ont eu plusieurs épouses, des concubines. Lorsqu'on est ici dans l'histoire, un Lévite est en train de le faire. Maintenant, dans l'histoire, on n'a pas les détails. Probablement que cette femme-là était maltraitée. On n'a pas les détails, elle allait vers différents hommes, décide d'aller se cacher chez son père pour éviter d'être mise à mort. On a déjà un autre indice sur la qualité de la relation entre le Lévite et sa concubine. 4 mois plus tard, il se dit « bon, il faudrait régler cette affaire-là ». Fait qu'il décide de se rendre chez le père pour aller négocier la récupération de sa concubine, d'accord? La femme est un objet dans cette culture-là et ça transpire constamment à travers le texte. Mais Dieu leur avait dit « vous allez devenir comme les peuples environnants. Leurs dieux vont être des pièges pour vous. » Et donc, récupère la femme, décide de s'en aller. Maintenant, il y a des éléments importants à souligner dans le passage. Lorsqu'ils partent pour le voyage, passent devant une ville des Jébusiens. Les Jébusiens, c'était un des peuples qu'Israël avait toléré au milieu d'eux. Fait que le Lévite se dit, pas sûr que c'est safe, tu sais. Ils vivent avec nous, mais c'est pas toujours cool si on s'en va là-bas. On connaît leurs coutumes. On va se trouver une ville israélienne. On va être safe. Et le narrateur est en train de nous dire, non, non, soyez bien attentifs. Vous avez entendu parler de Sodome et Gomorre, je vais vous parler de Gibéa. Vous avez entendu parler des Cananéens qui étaient des barbares, je vais vous parler d'Israël. Décide de se rendre, continuer, arrive dans une ville israélienne, la tribu de Benjamin, rentre dans cette ville. Il y a déjà quelque chose de louche lorsqu'ils arrivent dans cette ville puis ils ne trouvent pas de place où se loger. Si vous avez lu un peu l'Ancien Testament, si vous connaissez la culture de l'époque, l'hospitalité était super importante. Et donc, il y a déjà quelque chose de louche là. Il y a un vieillard, finalement, qui vient, qui n'est pas de la ville. Il est installé là, mais il n'est pas de ce milieu-là. Et il dit, écoute, tu ne peux pas rester dehors. Viens chez nous, c'est dangereux. On n'a pas d'informations là-dessus. Mais ça vient assez vite, merci. Finalement, les hommes de la ville sont tous une bande de pervers, de violents, de bruts. Ils se pointent à la porte, puis qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, donne-nous l'homme qui est venu. On va s'amuser pour la nuit. Sodome et Gomorre. C'est là qu'on est rendu. On est en Israël. Libéré par Dieu en Égypte, conduit dans la terre promise, reçu la loi de Dieu. On est en Israël. Donne-nous-le pour la nuit. Puis là, le vieillard semble avoir une parole de sagesse. Oh, ne commettez pas cette infamie. J'ai une jeune vierge, puis il y a une concubine. On va vous donner deux femmes au lieu. Toute la culture est rendue comme ça. Celui qui semble sage est fou. Celui qui semble sage est fou. Une culture, une société qui ne suit pas la parole de Dieu, qui ne cherche pas à marcher selon la parole de Dieu, va de folie en folie. C'est ça qu'elle fait. Et donc, celui qui passe pour sage dans cette société-là est fou lui-même. Soyez attentifs à la culture où on vit. Parce que vous pensez que vous pouvez dominer ces idoles si vous les tolérez dans votre cœur. Vous allez devenir comme eux. Finalement, c'est la concubine qui est donnée. Les hommes la maltraitent à un point tel où elle en meurt sur le pas de la porte. Monsieur le Lévite avait bien dormi cette nuit-là. Il avait réglé son problème, dormi sur ses deux oreilles. Le matin, il se dit, « Bon, je m'en vais à la maison, rouvre le pas de la porte. » Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas prête pour partir? Elle est morte. Elle est morte. C'était la condition des femmes à ce moment-là. Le peuple d'Israël est rendu identique au peuple environnant. Et le message que Dieu est en train de donner à travers cette histoire-là, c'est que vous n'avez pas besoin de regarder à Sodome et Gomorre pour définir le mal. Vous avez juste à regarder à vos cœurs lorsque vous cessez de marcher avec Dieu. Vous êtes pareil comme Sodome et Gomorre. Les parallèles sont tellement évidents dans le texte, c'est frappant. C'est frappant. Le même récit, Sodome et Gomorre, deux anges viennent, sont accueillis. Les gens de la ville disent, donnez-nous ces hommes, on va les abuser. Le Lévite avait évité d'aller dans une ville cananéenne, pensant qu'il serait en sécurité. Mais non, vous avez adopté leur Dieu, vous êtes pareil comme eux. Et si l'histoire d'horreur s'arrêtait là, part chez lui, monsieur est frustré, découpe la madame en morceaux, l'envoie aux 12 tribus pour montrer, oh, regardez l'horreur parmi nous. Et là, Israël, au lieu de crier à l'Éternel, va commencer à régler le problème par lui-même. Je vous le dis, ça dérape, c'est complètement fou cette histoire-là. Ça s'arrête pas là. Là, on a un massacre, on va multiplier par milliers de fois. Parce que là, ils vont y aller avec leur sagesse humaine sans consulter l'Éternel. Rassemble les gens des 12 tribus, on se rend là-bas. Donnez-nous ces hommes-là, on n'a pas consulté Dieu. Benjamin, mais on ne vous donnera pas ces gars-là, vous attaquez à notre identité. Comment ton identité? C'est des barbares. Tu aurais déjà dû les lyncher. Et là, ça devient un conflit interne. Israël est rendu à un endroit où il n'a même plus besoin d'ennemis. Il est son propre ennemi. Et c'est ce qui se passe avec chacun de nos cœurs. C'est ce qui peut se passer avec chacun de nos cœurs. C'est possible de s'éloigner de Dieu, de compromis en compromis, où à un certain moment donné, tu n'as pas besoin de chercher qui me fait des gens bêtes dans cette société. Ce sont ensemble de tes choix qui te font une vie misérable. Tu es rendu ton propre ennemi. Israël n'a plus besoin d'ennemis, il est son propre ennemi. Il décide de monter contre cette ville, de s'attaquer à Benjamin. Consulte pas vraiment l'Éternel. Si vous êtes attentif au texte, demande à Dieu qui va aller frapper en premier. Ils n'ont jamais demandé qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit régler ça? Il y a une infamie. On réalise, l'Éternel, que ça ne marche plus chez nous. C'est pas ça qu'ils font. Ils font juste demander qui monte en premier. Vas-y, Judas. Deux jours de temps, ils se font massacrer. Là, ils décident de consulter Dieu. Est-ce qu'on doit les attaquer? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ils font le mal, défendent le mal. C'est infâme. Regarde la réputation que ça fait. Oui, vas-y, là, Dieu donne la victoire. Mais ils ne consultent pas l'Éternel a priori. Fait que les gars ont tous fait un vœu. Et on dit « Jamais on donnera une de nos filles en mariage à quelqu'un de la tribu de Benjamin. » Ce sont des monstres, ces gars-là. Ils ont presque tout massacré la tribu de Benjamin. Il reste 600 hommes qui se sont réfugiés dans le désert. Ah! Commence à pleurer. « Oh, Éternel, que s'est-il passé? Il manque une tribu en Israël. » Vous venez de les zigouiller. C'est fou. Une société qui décide de marcher sans Dieu cherche dans sa propre sagesse la solution aux maux qu'elle crée. Et lorsque tu décides de t'écarter de la parole de Dieu, tu vas commencer à t'embourber dans de nouveaux mensonges, dans de nouveaux péchés pour essayer de régler les problèmes que tes péchés ont générés. Alors, ils sont mal pris. Ils disent, OK, on a tous fait un vœu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fait un vœu de pas donner sa fille? Oui, il y a une ville qui n'est pas venue à la guerre, donc ils n'ont pas fait de vœu. On va aller massacrer cette ville-là israélienne. On va prendre les jeunes filles qui sont vierges là, puis on va les donner. Ils récupèrent seulement 400 femmes. Il nous en manque 200. Qu'est-ce qu'on va faire? Écoute, il faut remettre ça au monde, cette tribu-là. On les a toutes zigouillées. OK, je sais qu'est-ce qu'on va faire à la ville de Silo, là où est le tabernacle de Dieu, à la ville de Silo, bien, les jeunes filles sortent pour danser, pour fêter l'Éternel. Fait qu'ils disent aux gars de la tribu de Benjamin, mettez-vous en embuscade, enlevez-en 200, leurs pères seront pas coupables parce qu'ils ont juré de pas les donner, mais ils auront pas donné. Ils se sont fait enlever. À la fin du livre des juges, si vous prenez le temps de relire ça cet après-midi, à un certain moment donné, dans votre cœur, ça va crier, « Seigneur, donne-leur un roi. » Ils sont rendus pires que les gens qui les entourent. C'est rendu des barbares, Seigneur. Et c'est ça qui se produit avec une société qui décide de définir Dieu par lui-même, de tolérer des idoles dans son cœur, dans sa vie. Fait des compromis, redéfinit Dieu comme elle le veut, pense qu'elle peut dominer ses idoles. Des fois, l'histoire semble, somme toute, assez banale, comme celle de Mica, qui n'est pas un tueur en série, un violeur, un massacreur. D'autres fois, ça tourne à l'horreur. Mais dans les deux cas, ça part exactement du même point de départ. Des gens qui ont décidé de rejeter Dieu tel qu'il s'est fait connaître pour se forger eux-mêmes leurs idoles. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant, s'il vous plaît. Lorsqu'on arrive à la fin du livre des juges, le livre se termine en disant, « En ce temps-là, il n'y avait point de roi sur Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Lorsque tu t'éloignes de Dieu, tu t'éloignes de la sagesse. Lorsque tu t'éloignes de la parole de Dieu, tu t'éloignes de la vérité. Tu t'appuies sur ta propre sagesse, tu laisses entrer dans ton cœur des idoles que tu tolères, que tu admets dans ton cœur. Au départ, tu dis, c'est banal, je peux dominer ça, je peux contrôler ça. C'est pas que je rejette Dieu, c'est juste que ça me fait du bien quand même. Tu sais, je suis tellement quand même quelqu'un qui fait tellement d'efforts pour marcher dans la sainteté, pour bien vivre. Quand même que j'aurais ces petits travers-là. Puis progressivement, tu vas découvrir que ces idoles-là, tu ne peux pas les contrôler. La seule manière de les contrôler, c'est de les détruire. La seule manière de les contrôler, c'est de les chasser entièrement de ta vie. Ça se peut que dans ta vie, ça donne l'histoire de Mica. Bien des gens auraient dit de Mica, c'est un gars, somme toute, pas mal spirituel. Mais en réalité, Mica est en train d'adorer un autre Dieu. Parce que Mica pensait qu'il pouvait mettre Dieu dans une boîte. Les gens qui le côtoyaient disaient, « Ah, mais c'est quelqu'un de bien, il a des principes. C'est un homme religieux. C'est un homme qui va à l'église, qui, devant certaines situations, quand il a l'opportunité de faire le bien, si ça ne coûte pas trop cher, il va le faire. » Est-ce que ta vie chrétienne ressemble à cela? Est-ce que ta vie chrétienne ressemble à ça? Les gens qui te voient disent, ben c'est pas un mauvais diable. Mais ta vie chrétienne est trop banale. Ta foi est trop banale pour qu'ils soient intrigués et émerveillés par ton attitude au travail, ton attitude avec ton épouse, avec ton époux, ton humilité, ton zèle, ton service. Ta vie chrétienne est trop banale pour que les gens soient émerveillés et qu'ils s'interrogent sur ce qu'il y a derrière cela. Dans d'autres cas, ça dérape totalement. Et vous avez connu des gens qui ont dérapé totalement. Ça tourne à l'histoire d'horreur. Moi, je suis en contact avec plein de pasteurs. Dans les derniers mois, il y a eu des histoires d'horreur de gens qui étaient dans des églises, qui ont abandonné l'église, puis qui ont commencé à faire des compromis. Et ça a tourné à l'horreur. Quand je parle de l'horreur, là, c'est « sort le gun ». Consoler mon ami pasteur puis dire, écoute, Dieu est là. Oui, mais pourquoi est-ce que cette personne-là que je connaissais et que j'aimais, j'ai prié avec lui, comment il a pu faire ça? Parce qu'il croyait qu'il pouvait dominer ses idoles. Parfois, ça tourne en horreur. Et le narrateur, à la fin de l'histoire, nous dit, ça va prendre un roi. Ça va prendre un roi qui va venir les conduire. Le livre a été écrit certainement un peu après et veut nous montrer la nécessité d'avoir ce roi qui va venir. Maintenant, si vous connaissez l'histoire des rois en Israël, on a changé 4 sous pour une pièce. D'accord? On fait juste une concentration du mal. Ça ressemble à peu près à ça. D'accord? C'est pas chacun faisait ce qui lui plaît, c'est le roi faisait ce qui lui plaît. Ça va? Puis ceux qui étaient avec lui faisaient pareil. Alors le récit. La suite des Écritures, à la fin du livre des Rois, on est encore poussé en avant dans le temps. On est poussé vers la venue d'un roi qui va venir beaucoup plus tard. Parce que le cœur humain n'a pas besoin seulement d'être délivré par Dieu, il n'a pas besoin seulement qu'on lui donne la loi de Dieu. Le cœur humain est tortueux, il a besoin d'un roi qui règne sur son cœur et qui le conduisent dans les voies de Dieu. Le seul dans toute l'histoire de l'humanité qui a été deux rois, honnêtes, humbles, c'est Jésus-Christ. C'est le seul qui a passé tous ces tests-là puis qui les a réussis. Mais il est allé plus loin que ça. Il a dit, il faut premièrement que je te délivre de ton cœur tortueux. Et il s'est offert lui-même en sacrifice sur la croix. Très bientôt, on va célébrer la Pâque. Si le mystère de la croix, la résurrection de Jésus-Christ ne sont pas clairs pour toi, sois là le vendredi soir, sois là le dimanche matin. Tu as besoin de découvrir ce roi-là, qui lui seul peut te délivrer de ses idoles dans ta vie, dans ton cœur. Peut-être que ton histoire est banale, peut-être que ton histoire est affreuse, mais il existe ce roi-là. Maintenant, peut-être que tu connais ce roi-là. Israël avait connu l'Éternel. Israël avait connu l'Éternel, ils avaient été délivrés, ils avaient connu la loi de Dieu, mais ils avaient commencé à traiter d'autres alliances. Au début de l'année, on vous a lancé un défi, on vous a dit, on vous lance le défi plus comme Jésus, deux domaines dans ta vie pour ressembler davantage à Jésus. Et on vous a dit, consultez des gens autour de vous, demandez-leur, si j'avais deux choses à travailler pour ressembler plus à Jésus, qu'est-ce que je pourrais travailler? Probablement que ce que les gens ont répondu indique, parle d'idole dans ton cœur. Peut-être pas. Est-ce qu'il y a des alliances dans ton cœur avec des péchés, avec des choses où tu as fait des compromis et tu ne marches pas avec Dieu? Entends ce que la parole de Dieu te dit ici ce matin. Parce que si tu tolères ça, tu vas attrister l'Esprit Saint. Puis à un certain moment donné, un peu de la même manière que ça se passe avec Israël, l'Esprit Saint va se taire. Il va dire, vas-y. Et tu vas aller de folie en folie, pensant que tu as trouvé une nouvelle sagesse pour régler le problème de ton premier péché. La seule manière de t'en sortir, c'est de revenir à la maison. De dire, Seigneur, je chasse toutes ces idoles-là. Viens régner sur mon cœur. Je veux te servir, Jésus-Christ. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, ces choses ont été données pour que nous apprenions. Ces choses ont été données, Seigneur, pour que nous perdions confiance dans la bonté fondamentale de nos cœurs, Seigneur. Ces choses nous ont été données pour que nous voyions ce qui se passe avec une société qui croit qu'elle peut dominer ses passions. dominer ses péchés, qu'elle peut faire des compromis et en même temps marcher droitement. Ces choses ont été écrites pour nous montrer une société qui décide de ne plus marcher selon ta parole, de ne plus te consulter, Seigneur, et qui commence à redéfinir Dieu dans ses propres termes. Père, je te prie de nous enseigner l'humilité. Comme on l'a dit déjà, de nous donner, nous accorder la grâce de la repentance, Seigneur, afin que nous puissions voir clairement ces domaines dans nos vies où nous avons fait des compromis, où ta parole ne porte plus avec la même puissance. Nous les lisons et nous sautons ces passages pour nous concentrer sur d'autres passages. Nous savons qu'ils sont là et qu'il faudra les adresser un jour, mais nous nous disons que nous pouvons tolérer ces péchés encore dans nos vies, Seigneur. Sachant qu'elles te déplaisent, qu'ils te déplaisent, Seigneur, nous ne les croyons pas vraiment dangereux. Oh Seigneur, accorde-nous cette grâce de la repentance, oh Dieu. Que nos pensées soient conformes aux tiennes, Seigneur. Que cette culture qui nous dit toutes sortes de choses sur la sexualité, sur les biens matériels, sur la femme, sur toute cette tendance à traiter la femme comme un objet à travers la pornographie qui est partout dans un paquet de produits culturels, Seigneur, ça déforme la vision même que les chrétiens ont de la sexualité. Aie pitié de nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de confesser ces péchés, de rejeter ces idoles de nos vies, Seigneur, afin que notre foi ne soit pas banale, mais que les gens voient dans nos vies un Sauveur et un Roi glorieux, puissant, merveilleux, par un style de vie, Seigneur, qui parle de toi. Transforme-nous, Jésus, à ton image. Règne sur nos cœurs, Seigneur. Amen.